On va demander une réaction à notre invité, Olivier Mongin, il est directeur de la rédaction d'Esprit. Nous avons évoqué les comparaisons entre le mouvement social de 1995 et celui d'aujourd'hui. Par rapport à ce que vient de dire Ludovic Piétenu, votre réaction, Olivier Mongin?
Oui, non, mais c'est très intéressant. Moi, ce que je remarque quand même, c'est que on peut difficilement parler quand même d'une convergence des luttes pour l'instant. Il y a une manière un peu journalistique, mais j'ai beaucoup apprécié la chronique, donc de mettre sur le
même
plan...
Vous avez le droit de dire du mal des journalistes.
Non, mais exactement, j'en suis un. Donc, mettre sur le même plan les EHPAD, quelques groupes de retraités, on peut pas dire qu'il y a un mouvement des retraités, ça me paraît quand même assez évident.
Il y en a un.
On a aussi une manière, nous, dans l'actualité, d'agréger les choses pour faire comme si ça allait faire événement. On est quelque part toujours à la recherche de l'événement, ce qui est tout à fait normal. C'est même pas une question de journaliste, c'est une question du citoyen que je suis aussi. Bon, moi, après, tout le problème, c'est cette question de l'opinion.
C'est la polarisation, en fait.
Mais je suis tout à fait d'accord. Ça. Une fois de plus, je sens les choses comme vous et j'ai la même inquiétude. Mais revenons quand même sur... Nous sommes encore en démocratie. Encore en démocratie. Parce que moi, après, on aura peut-être le temps d'en parler.
Oui, ça,
on est quand même dans un devenir du monde qui n'est pas très démocratique. Et moi, qui viens d'une gauche antitotalitaire, où nous avons porté la démocratie après 89, etc., je vois quand même les reculs, et qui ne sont pas dus qu'à
Macron.
Vous
voulez dire quoi? Vous voulez dire que c'est... Emmanuel Macron est dans un monde...
Non, mais pas du tout. On ne peut pas aujourd'hui réfléchir sur l'Hexagone sans travailler... Moi, je travaille sur la mondialisation urbaine. Je ne travaille pas sur la France et l'Europe. Parce que si on veut comprendre ce qui se passe chez nous, il faut faire l'effort de comprendre ce que le vieil Hegel, Chanatello, appelait le devenir du monde. Le devenir du monde, il travaille partout. Et le numérique a été une révolution qui nous globalise. Les problèmes de transition énergétique, climatique, nous globalisent. On est dans un monde fini. Nous savons que nous travaillons tous dans un seul petit monde. Le problème de l'Hexagone aujourd'hui, c'est de croire qu'il reste une culture politique exemplaire et qu'il, lui, peut être tout seul comme un David face au Goliath de la mondialisation qui n'a rien d'heureuse. Je pense que Macron a compris qu'elle n'était pas si heureuse que ça maintenant. On n'est pas un petit David face au reste du monde. Le problème du David que nous sommes est de voir qu'est-ce qu'on peut faire dans ce monde sans renier nos valeurs démocratiques. Mais ce n'était pas tout à fait votre question. Mais j'y reviens. Macron, il a été élu démocratiquement avec combien de voix ? Si on prend l'abstention, j'ai entendu tout ce qui a été dit sur les zadistes, tout ça. Moi, ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui et m'intéresse, au-delà du débat sur l'opinion, c'est de voir qu'on a des pratiques qui peuvent être politiques d'ailleurs, mais qui sont de plus en plus à la marge de la politique représentative. Alors, c'est ce que Macron a compris, puisqu'il a voulu sortir de la démocratie de parti, tout en étant un peu piégé, parce que le parti, on a parlé de médiation, il faut bien le retrouver. Mais on est quand même dans un monde où la démocratie élective... D'ailleurs, qu'est-ce que reprochent les gens de la CGT et autres à Macron? C'est de ne pas avoir, quand il s'est fait élire, dans son programme, le projet SNCF, en tant qu'élu. Mais d'un côté, on a la démocratie des élus, et de l'autre côté, on voit qu'on a plein de mouvements complexes qui peuvent être potentiellement violents, qui sont de plus en plus désaccordés, désaccordants. Donc la question de la violence, elle est là, et on voit très bien que le problème de l'emploi et le problème de la sécurité sont la question centrale de l'opinion publique.
La convergence des luttes, vous n'y croyez pas?
Non, c'est pas que je crois pas. Elle est possible, tout est possible. Je ne la vois pas pour l'instant.
Non, mais il y a quand même une addition, ou en tout cas des mécontentements. On a évoqué dans le journal des zadistes aux étudiants, passant par les retraités. Ça fait quand même un certain nombre de
catégories. Non, mais la semaine dernière, on mettait même Carrefour, qui est une entreprise qui n'est pas publique. Genre, ils ont négocié ce week-end à Carrefour. Donc, il faut aussi voir qu'on peut quand même négocier. C'est bon, et c'est pas une question de privé ou public. Il faut quand même est extrêmement précis. On est dans une société qui est gouvernée par les chiffres, il faut faire attention. Le mouvement des retraités, honnêtement, je n'y crois pas.
Le mouvement, alors, dans ce cas-là, est de ce qui est en train de se dérouler dans ce qu'on appelle la France périphérique. J'ai sous les yeux un numéro de Tous Urbains, c'est une revue que vous connaissez bien, puisque vous y travaillez, Olivier Mongin, et le titre est « Ville moyenne, petite ville, déclassée ou mal gérée ». C'est exactement le programme de ce 13h de TF1 jeudi, organisé donc dans l'Orne avec une conversation, une interview avec Jean-Pierre Pernaut. Est-ce que là aussi, il n'y a pas une France qui se sent abandonnée? Puisque dans les chiffres qu'a évoqué Ludovic Piétenu, il était clair que notre président Emmanuel Macron semble mieux plaire au cadre urbain plutôt que donc à ces inactifs sans emploi qui sont majoritairement présents dans des zones paupérisées.
Non, mais ça, Macron, d'une certaine manière, il l'a reconnu. C'est pas pour rien qu'il va aller dans l'Orne. Reconnaître qu'il y a cette question de la fracture urbaine, qui n'est pas sans lien aussi avec ce qui ressort à la SNCF, c'est-à-dire les TGV, les grandes lignes et les petites lignes. Il est évident que là, on revient à une question centrale liée à la SNCF, pour revenir à notre sujet, qui est quand même, on a favorisé les grandes lignes. Et ça, c'est l'État et la direction de la SNCF. On les a, d'ailleurs, privatisé au sens tout simplement du numérique, c'est-à-dire, moi je reçois tous les jours des applications de la SNCF, j'accompagne votre mobilité. Non, c'est pas à moi qui décide de tout, puisqu'il y a un réseau qui est organisé, etc. Donc on a cette privatisation qui est liée au numérique, elle fonctionne déjà très bien. C'est pas la privatisation du service public, de même que la privatisation économique de la SNCF, elle fonctionne. Mais puisqu'on a les deux lignes TGV qui ont été ouvertes, il y a une concession en juillet, il y a une concession d'un côté et un partenariat privé-public le Il y a un problème d'information qui est un problème pédagogique qui est la question centrale. Revenons même à la fracture urbaine que je considère comme un problème important. Les mêmes élus aujourd'hui, les petits élus de province qui vont crier parce qu'on n'a pas de petites lignes, etc., c'est les mêmes qui ont exigé de la SNCF qu'on leur ouvre des gares TGV. Parce que c'est pas Monsieur Pépi qui décide de l'ouverture d'une gare TGV. C'est les maires, c'est les banques. Les élus sont quand même très responsables d'un non-dit sur un certain nombre de... Les élus qui sont... A priori, les représentants, les médiateurs qu'on recherche, moi je suis d'accord avec la chronique là-dessus, mais on est dans une société pyramidale où le millefeuille territorial, le millefeuille électoral très complexe ne fonctionne plus comme il pouvait fonctionner peut-être encore en 95.
Mais alors, vous voyez, c'est ça qui est étonnant, Olivier Mongin, c'est qu'on a l'impression qu'on a d'un côté une France des villes, une France aisée, qui semble être en accord avec les réformes d'Emmanuel Macron. De l'autre côté, une France de laisser pour compte qui, elle, est en désaccord avec, si on essaye de faire un parallèle, une opinion qui pourrait être en désaccord avec la grève et des experts qui, eux, seraient en quelque sorte favorables aux réformes. Est-ce que tout ça, ça ne fait pas tout simplement une opposition entre France d'en haut et France d'en bas ?
Non, enfin bon, d'abord, tous les experts ne sont pas nécessairement favorables. Tout le problème, c'est que si les débats d'expertise ressortaient, ça aiderait quand même beaucoup à réfléchir. On fait comme s'il y avait une ligne qui était celle de Bercy, ce qui est quand même pas si simple. Moi, je pense que, là encore, faut quand même réfléchir sur la mondialisation globalement pour comprendre... Et même Macron a mis en cause récemment la théorie du ruissellement. C'est-à-dire qu'effectivement, favoriser les plus riches pour que ça donne une dynamique qui tire les autres est quelque chose qui est très contestable. À l'échelle mondiale, on peut pas parler de cette théorie du ruissellement économique. On voit très bien que ce qui est ressorti, c'est la question des inégalités. Et les inégalités, c'est pas que les inégalités économiques, les inégalités sur le terrain de l'emploi, c'est les inégalités territoriales aussi, bien entendu. Mais il y a quand même tout un débat. Moi, je travaille un petit peu là-dessus, sur ce qu'on appelle la métropolisation. Et on s'est aussi là installé dans l'idée qu'il y a les mauvaises métropoles dont Paris serait l'exemple suprême, bien entendu, et ceux qui seraient hors des métropoles. Un bon projet de métropole, c'est justement, ce devrait être une manière territorialement de regrouper des territoires qui sont des territoires désaccordés. Le problème, c'est de réaccorder les territoires. Mais là, il faut quand même un discours qui manque énormément. Le problème actuellement, c'est l'absence de pédagogie. C'est quand même pas normal que depuis 23 ans, on en revienne toujours à cette histoire de effectivement, le bras de fer entre les syndicats et l'État, cette incapacité de réforme qui est vraiment... Il n'y a pas d'immobilisme de notre pays. C'est un pays qui est extrêmement mobile à sa manière. Et d'ailleurs, moi, je trouve que si c'est moi qui devais réformer les SNCF, la question de la mobilité, elle devrait être centrale.
C'est-à-dire
puisque, la question de la mobilité, la révolution numérique, elle est là. Vous-même, vous avez votre mobile, vous travaillez avec toute la journée, vous faites l'économie des médiations, justement, de ce point de vue-là. Et il est évident que les questions des mobilités, c'est les flux de tous ordres, commerciaux, etc., qui sont plus ou moins ouverts, plus ou moins fermés. Et c'est les flux de population qui nous amènent à une autre question, qui sont les mouvements migratoires que nous n'avons pas évoqués depuis le début.
La pédagogie, ça veut dire quoi aujourd'hui pour vous dans quelle mesure Emmanuel Macron n'en fait pas ou en fait trop, je ne sais pas. Quel est votre point de vue ?
Elle n'est pas facile à faire. Le problème, c'est qu'autour de Macron, je pense que peu de gens en font. C'est déjà ça le problème. On voit très bien quand même que la ministre chargée du dossier SNCF est un peu en difficulté là-dessus. C'est pas du tout dire du mal d'elle que de le reconnaître. Je pense que le Premier ministre a déjà une capacité, lui, de dire un peu les choses. Mais que Macron, quand il passe une heure à la télé, il est capable de raccommoder un petit peu, enfin, de faire en sorte de faire le lien entre les différentes réformes qu'il fait. Mais je pense que la grande question aujourd'hui, c'est, vous avez parlé du train des réformes d'entrée de jeu, c'est d'essayer de montrer l'unité et la pertinence de ces réformes. Mais regardez, Justement, le problème du statut, c'est ce qui ne rend pas possible, ou plus ou moins, la mobilité avec ce qui est hors du statut. Hein. Macron, sur quoi il travaille depuis qu'il est arrivé ? Droit du travail, on peut critiquer, etc. Il travaille sur la formation, sur le chômage et sur la retraite. Le problème, c'est de mettre en lien tous ces éléments pour montrer que ce qui est derrière, c'est ce qu'on a appelé le compte d'activité. Et très important pour ça, qui date de 2007, c'est que maintenant, on considère effectivement les parcours professionnels comme des parcours, comme justement des mobilités. On n'est pas enfermé, je ne parle pas là du statut, mais on n'est pas enfermé dans un travail comme ça, définitivement. La question aujourd'hui est d'une manière celle de l'intermittence. On passe d'un emploi à l'autre, on bouge. La mobilité, c'est ça. Et la mobilité, elle se retrouve après de manière plus large dans les transports. C'est pour ça que, quitte à faire une réforme des transports, on devrait quand même être capable de dire qu'on fait une révolution dans l'ordre de la mobilité. Et la SNCF, elle travaille comment depuis 20 ans, depuis qu'elle a démarré le TGV? Elle a démarré une espèce de révolution de la mobilité en créant une fracture en termes de vitesse, c'est-à-dire les petites et les grandes vitesses, à laquelle il faut remédier. Mais c'est de ces choses-là dont il faut parler. Et regardez, je termine juste sur l'entreprise. Le grand paradoxe de ce qu'on dit depuis le début, c'est Madame Nota qui vient de mettre un rapport avec un grand patron sur le problème de l'entreprise. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit qu'il serait peut-être temps qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, ce soit les salariés qui, face aux actionnaires, aient un peu quand même une maîtrise de ce qui se passe. Elle en appelle à une démocratie d'entreprise. Patrick Artus, qui est un économiste connu, qui fait beaucoup de livres et qui n'est pas spécialement un homme de gauche, Patrick Artus vient de faire un livre sur le ras-le-bol des salariés. La question, effectivement, c'est que les gens ont besoin que, dans le cadre de l'entreprise aujourd'hui, et je ne parle pas que de l'entreprise publique, il y ait la possibilité d'une représentation des salariés face à un actionnariat qui organise tout le capitalisme contemporain.
Oui, mais est-ce que ça n'est pas justement une série de vœux pieux, et est-ce que l'on peut véritablement imaginer une entreprise qui fonctionne différemment? On n'a pas l'impression, finalement, qu'Emmanuel Macron veut véritablement révolutionner le capitalisme, si tant est d'ailleurs qu'il en aurait le pouvoir, Olivier Mongin.
Oui, mais enfin, la grande question qui va se poser à lui face à la réalité, parce que moi, je pense que Macron, contrairement à l'image qu'on en donne, c'est-à-dire d'un banquier, d'un homme qui regarde uniquement l'économie, c'est une bête politique. C'est un type qui a lu Le Prince de Machiavel quand il était jeune, et il sait qu'il faut se décider, et qu'on décide pas n'importe comment, n'importe où, que la volonté, elle est liée à des opportunités, etc. Bon, peut-être qu'il a pas lu suffisamment dans Machiavel le fait que le prince, il doit quand même entendre le peuple, parce que le peuple, c'est celui qui sait ce que le prince ne doit pas faire.
Hein. D'accord, donc il a loupé un chapitre quand même.
Je suis pas sûr qu'il l'ait loupé. Je pense que Macron, son problème, c'est qu'il a compris le nouveau monde. C'est pas simplement le nouveau monde dans l'Hexagone. Hein, mais c'est là où il manque une pédagogie. Il faut que l'Hexagone apprenne ce qu'est le nouveau monde hors de l'Hexagone, puisqu'il façonne l'Hexagone.
Pourquoi on ne peut pas imaginer avoir une solution alternative au nouveau monde? Est-ce que vous appelez le nouveau monde?
Je pense qu'aujourd'hui, vous me prouverez le contraire, c'est possible. Moi, je pense qu'on est obligé de travailler sur les tendances lourdes à l'échelle mondiale, qui sont pas portées que par le capitalisme, elles sont portées par le mouvement d'urbanisation, elles sont passées par les nouvelles technologies, elles sont portées par énormément de choses, et elles sont portées par le politique aussi, parce que, excusez-moi, vous n'allez pas m'expliquer Erdogan et Poutine uniquement comme le ferait la gauche classique par l'évolution du capitalisme. Il y a un retour des formes de pouvoir aujourd'hui. C'est là où je disais tout à l'heure mon inquiétude face à la démocratie. Quelque part, Macron, c'est une bête de pouvoir qui a compris que le pouvoir ne s'expliquait pas uniquement par l'économie. Vous n'expliquez pas Erdogan par l'économie. Hein. Donc, il s'agit de prendre les tendances lourdes et voir comment on peut amener des contre-tendances. Mais il ne s'agit pas de dire la France est un pays exemplaire avec sa culture politique depuis la Révolution et puis depuis De Gaulle. Parce qu'après, tout le monde s'arrête à peu près à De Gaulle, excusez-moi. On a eu Napoléon, De Gaulle, on ne parle pas du reste. Et après, on s'arrête et on voit que c'est un pays qui n'a pas du tout su entamer ses réformes. Je ne parle pas là encore de la SNCF et du statut. Macron, il paye aussi le retard accumulé à l'allumage des réformes. Donc, on a des réformes qui se font en douce. Moi, ce que j'appelle la libéralisation rampante et l'étatisation rampante. Et c'est ça qu'il faut contrer. Le problème de la politique, c'est de contrer les mauvaises tendances.
Décembre 95, la crise s'est dénouée tout simplement parce que le gouvernement a reculé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait arriver, Olivier Mongin ?
Aujourd'hui, moi, qu'est-ce qui pourrait arriver ? Tout le monde le sait, j'ai dit tout à l'heure, Macron a été voté avec combien ? de voix, etc. Vous le savez mieux que moi, tout le monde le sait. Si on prend en compte l'abstention, on voit très bien qu'il y avait la question de l'extrême droite d'un côté. Il faut quand même pas oublier que Macron nous a évité ce qui se passe un peu partout en Europe, hein, l'oublions pas, c'est-à-dire la montée, il a plutôt cassé pour l'instant le Front National, etc. On pense qu'on veut de Laurent Wauquiez pour le reste. Bon, Macron, il a quand même empêché quelque chose sur le plan de la représentation politique et de la démocratie électorale. Moi, mon inquiétude à moi, que j'ai déjà évoquée tout à l'heure, puisque vous avez évoqué les Zadis dans le journal, et on peut évoquer mille autres mouvements, il ne s'agit pas de se focaliser là-dessus, même si c'est d'actualité, c'est aujourd'hui, quelles sont les pratiques démocratiques qui sont rendues possibles pour les jeunes générations, qui ne sont pas uniquement, vous l'avez un peu dit, le fait d'être un bon entrepreneur sympathique et souriant pour le parti du président, mais où sont les pratiques citoyennes susceptibles, etc. Le fameux mouvement,
mais justement,
le
vous
mouvement
trouvez
de 95 de la gauche, je m'arrête, de la gauche radicale, vous voyez bien qu'il n'a pas proposé un programme. C'est tout le problème de Hollande, c'est que la gauche n'a pas pu réformer à sa manière. Elle a fait l'économie des réformes, vous le savez. Et bon, Macron, il prend tout dans la figure de ce point de vue-là. De toute façon, si Macron échoue, on tournera une certaine page de toute façon.
Lorsque Ludovic Piétenu, tout à l'heure dans son billet politique, disait que le moment avait été choisi pour entamer l'assaut contre les zadistes de Notre-Dame-des-Landes, tout simplement parce que le gouvernement avait en tête de montrer qu'il voulait casser un certain nombre de formes de contestation, est-ce que là aussi vous trouvez que la symbolique est bonne, Olivier Mongin?
Cela, il l'a annoncé de toute façon depuis longtemps. C'est le Premier ministre qui a pris en main le dossier. Ça a été annoncé, le fait que on allait effectivement... il y a eu un gros travail fait par Madame la Préfète, fait par les maires. Il y a ceux qui rentraient dans l'ordre, un certain ordre du droit, qui est à réacquérir des propriétés, etc. Et il y a ceux qui sont dans une position, quelque part, ils ont le droit, qui est une position contestataire. Bon, le problème, c'est il y a contestation et contestation. Moi, je suis pas du tout un homme de la sécurité là-dessus. Est-ce que c'était possible de négocier ou pas? Toutes les questions sont ouvertes. Mais ils avaient quand même annoncé la chose. Moi, je trouve que sur Notre-Dame-des-Landes, il y a plutôt une clarté par rapport à d'autres projets.
Lesquels? Quand vous dites par rapport à d'autres projets?
Les projets dont on a parlé depuis le début, des réformes qui se font qui se font sans grosse capacité d'introduire la réforme, comme ça aurait pu être le cas pour les CN, dans une réflexion un peu large sur les mobilités en France et ailleurs, qui amènerait à calmer le jeu avant d'arriver sur les réformes lourdes, c'est-à-dire le statut.
L'autre front qui lui aussi semble se durcir, c'est celui qui s'est ouvert à l'université avec Parcoursup. Est-ce que là aussi vous considérez que la réforme a été malmenée, qu'elle a été menée de manière insuffisamment ouverte et en tout cas pas de manière transparente, Olivier Mongin?
Moi non, là je pense que s'il y a un des ministres qui a ouvert les deux chargés de l'enseignement supérieur et de l'enseignement, là on a une des réformes, moi je suis pas nécessairement d'accord avec tout, mais on a une des réformes qui a été quand même la plus publique, la plus discutée, la plus, faut reconnaître à Blanquer, d'une certaine manière on peut être contre sa réforme, d'avoir porté une réforme qui a été partagée. Après on peut discuter là aussi sur la... Là aussi, revenons aux chiffres, on voit très bien que moi, une fois de plus, je suis pas là pour soutenir ce gouvernement. C'est pas du tout le problème. Mais c'est pas là sur
l'université. Vous avez le droit de le soutenir aussi.
Non,
vous avez le droit de
le
parce que à chaque
fois
vous dites
faire croire qu'il y a une révolution dans l'université aujourd'hui. C'est tout. Moi, j'ai connu 68, j'ai connu 95. Excusez-moi, ça n'a. Le Premier ministre disait ça hier dans le Parisien. Je crois, il a tout à fait raison. Prenons Paris. On va prendre tout de suite un département de musicologie avec 500 mômes. Et moi, j'ai rien contre. Et l'opposé au 55 000 étudiants qui, à la Sorbonne, vont tous les jours travailler. Voilà. Bon, il faut être un petit peu raisonnable dans cette manière. On a l'impression aussi qu'on est tellement à la recherche de l'événement dans un pays où se passe pas grand-chose qu'on cherche effectivement la bagarre.
Mais pour vous, la fac va bien ?
Non, la fac va pas bien, mais on sait justement que c'est un garage et que s'il fait une sélection, je dirais par la faiblesse de l'incapacité de penser des filières, de penser des progressions. Et moi, la réforme en cours ne me choque pas. Tous mes amis qui enseignent en terminale trouvent que le projet de bac n'a rien de scandaleux. Après, faire un travail d'accompagnement des étudiants, bien entendu, on pourra toujours faire des critiques. Moi, le premier, je suis pas universitaire et je suis heureux d'être un intellectuel intellectuel indépendant qui peut faire un peu ce qu'il veut. Mais on voit très très bien que le problème aujourd'hui, c'est les accompagnements. C'est ce qu'on a appelé les parcours à propos de l'emploi. Et vous voyez bien qu'à travers la SNCF, si on n'est pas capable, qui est quand même le monde de la mobilité et de la mobilité propre, ça n'a pas été dit depuis le début, si on n'est pas capable de comprendre que les parcours, c'est l'essentiel, si vous voulez, la France, elle a vécu avec le fonctionnalisme, c'est-à-dire qu'il y a du silo, il y a des silos. D'un côté, vous avez le travail, vous avez les loisirs, vous avez le logement et puis les transports, c'est-à-dire la mobilité. Mais aujourd'hui, la mobilité, elle travaille toutes les fonctions. Elle est partout, la mobilité, même dans les mœurs. Et donc, le travail d'un État, qui est un État en silo, qui est un État très fonctionnaliste, c'est de commencer lui-même à travailler sa mobilité. Et la réforme de la SNCF, elle n'a de sens que laisser prise en compte dans une réflexion sur une mobilité qui peut être partagée.
En décembre 1995, il y avait un front qui était un front qui séparait les intellectuels. Comment jugez-vous, Olivier Mongin, le débat intellectuel, les commentaires sur ce qui est en train de se dérouler à la SNCF dans la société française aujourd'hui ?
Bah, moi, ayant dirigé une revue pendant 30 ans, je vois bien que
la revue Esprit.
On a assisté aujourd'hui à une disparition pour moi de ce que j'ai connu avec bonheur comme étant le milieu intellectuel où on pouvait s'engueuler avec ses ennemis. Et d'ailleurs, 95 a été un moment douloureux là-dessus où on pouvait se conflictualiser. Je me souviens, je viens pas du monde marxiste. Moi, j'ai connu une vie intellectuelle. On pouvait s'engueuler avec des marxistes, avec des gauchistes, etc. Aujourd'hui, le combat est beaucoup plus clivé.
C'est-à-dire?
Aujourd'hui, on est, comme dans la société globale, on est un peu dans ami-ennemi. Hein, c'est la formule d'un politique qu'on n'aime pas trop, mais qui s'appelle Carl Schmitt. On n'est plus quand même dans l'idée...
On l'aime pas trop parce que c'est un théoricien nazi, le théoricien nazi du droit.
Exactement, la question ami-ennemi, qui es-tu, où habites-tu, et qui es-tu, toi, étranger, c'est la question qui traverse un petit peu tout. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup aujourd'hui, c'est cette espèce de... Beaucoup de mes amis disent, mais c'est toujours le social qu'il faut défendre, je suis entièrement d'accord. Mais moi, je vois quand même comment la question de ami-ennemi, et tout ça, ça touche quand même, on l'a pas évoqué, tout l'opinion sur l'immigration, l'opinion sur la sécurité, comment la question ami-ennemi est quand même aujourd'hui extrêmement centrale.
C'est-à-dire, vous trouvez qu'il y a moins de dialogue aujourd'hui, Olivier Mongin ?
Aujourd'hui, le thème qu'on n'a pas suffisamment évoqué, il est évident qu'aujourd'hui, le travail intellectuel, c'est l'universitarisation qui donne des experts pour les médias. On est dans une logique média-actualité, universitarisation expert.
Évoquez-le, vous avez le temps. Expert. Qu'est-ce que vous voulez dire à ce sujet ?
On est dans une logique où l'intellectuel qui pouvait conflictualiser avec d'autres et s'en peigner un petit peu, parce que pour moi la démocratie c'est la capacité de s'engueuler, d'avoir des règles pour s'engueuler, sans se faire la guerre. Aujourd'hui on voit beaucoup de guerres, on voit beaucoup de coups de force, on voit beaucoup de trucs très durs, et effectivement on voit de moins en moins d'espace où on arrive à conflictualiser.
Mais si vous pensez
que c'est la politique, puisqu'on en parle depuis le début.
Vous pensez que les experts ont pris trop de place par rapport aux intellectuels ?
Non, parce que je suis pas là. L'intellectuel, il a besoin d'un récit, il a besoin d'être porté par un récit. On a parlé des grands récits, ça revient peut-être aujourd'hui par la religion, je suis désolé, ça c'est une vraie question. Mais les grands récits, on va pas réinventer le grand récit communiste. Le libéralisme, malheureusement, produit aucun récit. Je dis pas malheureusement au sens qu'il devrait le faire. Le problème, c'est est-ce qu'on est capable de réinscrire nos sociétés dans une histoire ? C'est le problème de la France, de l'Europe et du monde. Mais si on prend pas en compte le devenir du monde, de toute façon, on n'est pas capable de s'inscrire dans une histoire. C'est ça le boulot de l'intellectuel.
Mais justement, aujourd'hui, dans
le
débat...
Ou du romancier, parce que je crois que je suis à côté d'un romancier.
Oui, c'est Aurélien Bélanger qui vient de s'installer. Oui. Quelle distinction vous faites entre expert et intellectuel aujourd'hui, Olivier Mongin ?
Si vous voulez, l'intellectuel, c'était quelqu'un... je vais vous donner un exemple. Récemment, à la revue Esprit, ils ont fait un dossier sur l'Europe. Et je dis, parce que moi, c'est une des questions qui me passionne le plus depuis un an. Je regarde ce qui se passe en Catalogne. Parce que là, il y a des tensions, des conflits. Et vous voyez que l'incapacité de résoudre par le pouvoir central un conflit politique fait qu'on durcit les choses, on l'identitarise. Et on me dit, non, ce que nous n'avons pas de gens compétents sur la Catalogne. Moi, j'ai dit, tant que j'étais patron d'une revue et que j'ai travaillé dans une revue, et je travaille toujours dans des revues, l'idée, c'est que moi, citoyen, en travaillant un peu... D'ailleurs, Bélanger fait un peu ce travail-là, je trouve, sur l'urbain, parce que c'est des choses qui me passionnent. Moi, et c'est pas un universitaire classique de la chose, au contraire, c'est un arpenteur. Moi, je veux dire, non compétent, je suis capable en tant que citoyen, en travaillant un peu, et là c'est là où on retrouve la formation de l'opinion, qui est la question centrale, en travaillant un peu, je suis capable d'expliquer ce qui se passe. Et aujourd'hui, c'est ça qui manque, c'est pourquoi qu'on n'a plus aucune réflexion historique, et les crises identitaires aux quatre coins de l'Europe, et la Catalogne en est une, les crises identitaires, ben, on voit qu'elles font remonter tous les problèmes historiques, tous les problèmes de mémoire, et les batailles de mémoire sont devant nous. Moi, je dis, la géographie mondialisée, on la voit, hein, les arpenteurs, comme Bélanger le font, redevenons un peu historiens de notre temps présent. Si des intellos ont du sang, mais moi je trouve ça plus chez les romanciers aujourd'hui que chez beaucoup de pseudo-savants dans d'autres domaines.
Olivier Mongin, dans ces conditions, on va laisser l'arpenteur arpenter. On va écouter la conclusion définitive d'Aurélien Bélanger qui, je crois, porte aujourd'hui sur la notion de frontière. Aurélien,
on est au centre.
Je vous écoute.
Du pur arpentage.